RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine marquée par des cocoricos. Cocorico pour la vente d'armes. La France va devenir le deuxième marchand d'armes au monde grâce à ce contrat record de 34 milliards d'euros annoncé cette semaine. Le contrat du siècle, dit-on. Le groupe des CNS a signé pour la vente de 12 sous-marins Barracuda à l'Australie. Nous sommes mariés avec l'Australie pour 50 ans, a déclaré le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Ces derniers mois, la France a aussi vendu des Rafales d'assaut, revendu deux bâtiments Mistral, sans compter le tout venant, des chars, des munitions, des missiles. Le chiffre d'affaires des ventes d'armes françaises à l'export est passé de 5 milliards en 2012 à 16 milliards en 2015, donc 34 milliards pour l'instant cette année, et l'année n'est pas finie, reste encore à vendre des Rafales à l'Inde, des chars et des hélicos au Moyen-Orient. L'industrie de l'armement en France en 2018 représentera 200 000 emplois, 25% du commerce extérieur, faisant de nous le deuxième vendeur d'armes au monde. Alors ça, plus la baisse spectaculaire du chômage au mois de mars, 60 000 demandeurs d'emploi dans la catégorie A. François Hollande a toutes les raisons d'espérer pour sa réélection. Enfin, il faut qu'il tienne 12 mois puisque l'entre-deux-tours de la présidentielle c'est pile dans un an et les choses sont déjà lancées pour François Hollande avec le premier meeting et haut la gauche qui a eu lieu en début de semaine. Nom du mouvement de soutien à François Hollande, un premier meeting de l'élection présidentielle 2017 qui ne dit pas son nom. La moitié du gouvernement était présent. François Hollande, le seul candidat capable de rassembler la gauche, selon son ministre Michel Sapin. Comme le premier enjeu, c'est de rassembler la gauche pour être présent au deuxième tour. Il faut quelqu'un qui rassemble, dit le ministre. Ajoutons aussitôt pour déminer le contre-argument de l'impopularité de François Hollande. Elle est due à l'exercice du pouvoir, mais je ne vois pas d'autre manière de changer la réalité que d'exercer le pouvoir. Enfin, ce mot ironique de François Hollande jeudi soir. Parfois, les mous peuvent atteindre la perfection, a-t-il lâché. Il est en confiance, le président de la République. Alors il lui faudra tout de même gérer Emmanuel Macron, sa créature finalement, ministre de l'économie, propulsé de l'Élysée par François Hollande jusqu'à Bercy. Emmanuel Macron a encore fait une sortie cette semaine. Il promet une autre offre politique pour 2017. Suivez son regard. Alors les 12 derniers mois sont lancés, on est déjà dans l'élection et donc on renonce. Par exemple, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé cette semaine que le paquet de cigarettes ne passera pas à 10 euros d'ici la fin du quinquennat, tout en confirmant qu'elle est favorable à une telle augmentation. On ne passe pas d'un paquet de 7 euros à un paquet de 10 euros en quelques mois, a-t-elle fait valoir. Il faut dire que c'est assez impopulaire, effectivement, à quelques mois de la présidentielle. En revanche, on ne doit pas hésiter à augmenter les taxes sur le diesel. Le Premier ministre Manuel Valls a confirmé cette semaine que le rééquilibrage de la taxation des carburants en faveur de l'essence et au détriment du diesel enclenché cette année se poursuivrait dans le projet de budget 2017. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7 avec dans quelques instants eh bien, le sport. Pour la météo de cette matinée, sachez que le temps sera relativement perturbé. On aura de forts passages nuageux et des risques d'averses, voire d'averses orageuses et aussi de belles plages d'ensoleillement. Température 22 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 8 mai. Alors, après le Tribune Foot très animé de la semaine dernière, place à nouveau donc à Tribune Sport avec ce matin un invité qu'on avait perçu depuis un petit moment, qu'on est ravi en tout cas de retrouver. C'est le président du tennis club de Fargis, Jean-Michel Lesprit. Jean-Michel, bonjour.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
Merci de répondre à notre invitation. On est à les 15 jours de Roland-Garros. Donc, ça va être une époque importante hein, pour votre sport et pour votre club. Hein. On sait que Roland-Garros, c'est la mecque du tennis.
Ah, tout à fait, oui, c'est un moment que tout le monde attend, parce que c'est vrai que c'est là qu'on va jouer les plus grands joueurs du monde, sur la surface bien préférée des Français, qui est la terre battue, et vraiment, il y a toujours de très très beaux matchs, et c'est sensationnel.
Voilà, et puis donc, vous nous accueillez ici, au Tennis Club de Fargis, en plein tournoi, hein, vous avez commencé votre tournoi.
Oui, ben nous vous remercions d'ailleurs de venir nous voir au Tennis Club de Fargis. On a commencé notre tournoi le 30 avril Donc il y a un peu plus d'une semaine et puis ça se déroule bien puisqu'avec le beau temps, tous les matchs ont pu se faire dans de bonnes conditions.
Voilà, alors elle m'accompagne pratiquement sur toutes les émissions, elle m'accompagne aussi dans nos déplacements, c'est Géraldine que je salue, ça va Géraldine?
Oui, ça va très bien, bonjour à tous.
Voilà, donc on va aussi revenir dans cette émission sur le comité départemental olympique et sportif des Yvelines, hein, puisque vous êtes aussi le responsable de la communication, il y a un nouveau président, on en parlera donc au cours de cette émission. Et puis Géraldine, on va aussi parler, parce qu'on n'a pas pu le faire dans l'émission Tribune Foot la semaine dernière, bah, sur ce qui s'est passé le 24 avril dernier sur Rambouillet, à savoir la Rambouillet Sport, ça a été une belle, belle union sportive autour de la course à pied.
Tout à fait, tout à fait. Toutes les sections étaient là pour aider. Ça s'est très, très bien passé. On était très contents. Ludovic Dilmy a fait un boulot formidable avec toute son équipe. Donc, oui, non, de très beaux résultats en plus. Donc, bon, on n'a pas eu beaucoup de chance au niveau du temps, mais bon, c'est pas grave. On a compensé par rapport aux beaux résultats qu'on a eus.
Oui, comme très souvent, malheureusement, pour cette course dans le parc du château de Rambouillet, la météo, elle est jamais exceptionnelle. Quelle que soit l'époque qu'on l'ait fait, malheureusement, la météo n'est pas toujours avec vous. En tout cas, je vais vous rappeler le classement, hein, parce qu'il y avait trois épreuves, il y avait une 2,6 km, c'était pour les enfants, 10 km et une 20 km. Alors, sur les 2,6 km, eh bien, c'est Baptiste Lefebvre de Rambouillet Sport qui s'est imposé, 9 minutes 33 secondes, devant Libu Ansaulme de Rambouillet Sport, 9 minutes 57 secondes, hein, c'est la première féminine. Troisième, Tristan Dex de Bullion, 10 minutes, quatrième, Agnès Giraud, 10 minutes 06, et cinquième, donc, Julien Adhérer de Saint-Arnoux, 10 minutes 18 secondes. C'est important cette course des jeunes, Jean-Line.
Ah bah oui, c'est important parce que c'est vrai que ça motive et puis ils veulent faire comme papa-maman parce que c'est une course familiale parce que les parents souvent couraient derrière. Donc c'était génial et ils étaient très motivés et c'est vrai que jusqu'au bout ils se sont battus. Puis il y avait tout le monde à l'arrivée qui était là pour les applaudir, pour être avec eux. Donc non, c'est vraiment le concept familial est vraiment génial. C'était très important les enfants, oui.
Alors pour les courses des 10 et 20 km, bah, on a retrouvé des vieilles connaissances. Ils étaient venus gagner les épreuves de la corrida de Rambouillet au mois de décembre. C'est Loïc Schubert qui s'est imposé pour les 10 km en durant 72, 32 minutes 28 secondes devant Paul Matou donc de Boeuf les saisies, 32 minutes 59 secondes. Le troisième c'est Fabien Gauthier de Matenon-Pierre, 33 minutes tout juste. Quatrième Mickaël Decaux, un non licencié, 33 minutes 26 secondes. Et cinquième Guillaume Montero de Rambouillet Olympique, 34 minutes 30 secondes. Première féminine donc Flore Satarade de l'athlée 91 Viry-Châtillon, 40 minutes 12 secondes, 561 concurrents et concurrentes classés. Et pour les 20 km, eh bien, c'était celui qui avait gagné la corrida, tiens, sur Rambouillet. Sylvain Daudet, d'Endurance 72, qui s'est imposé 1h 6 minutes 57 secondes, devant Mustapha Boutatelam, athlétique sportif de Maher, 1h 7 minutes 41 secondes. Troisième, Antoine Rondeau, un non licencié, 1h 10 minutes 52 secondes. Quatrième, Vital Bauchery du CAJ, 1h 18 minutes et 12 secondes. Et cinquième, Laurent Van de Overenberg du CAMV, 1h 18 minutes 20 secondes. La première féminine, c'est Agnès Hervé, elle termine 24e, elle est du team Outdoor Poly, 1h 34 minutes et 7 secondes, 244 concurrents et concurrentes classés. Jean-Michel, vous avez participé à des épreuves de course à pied. Je me rappelle vous avoir interviewé sur ces épreuves-là.
Oui, tout à fait. Bon, c'était il y a un petit bout de temps. Oui. J'ai participé effectivement au semi-marathon de Rambouillet. J'ai dû faire quatre épreuves, Paris-Versailles, j'ai dû en faire 4 ou 5. J'ai fait le marathon du Médoc également, puis pas mal de 10 km. Enfin bon, j'ai fait pas mal de courses à pied dans ma jeunesse, disons. Hein.
Oui, alors c'est un sport dont on parle très souvent sur notre antenne parce que c'est vraiment un sport majeur ici. Hein. Il y a un nombre incalculable d'épreuves sportives, des trails, des épreuves sur route avec plusieurs distances. C'est vraiment un sport majeur.
Oui, ben comme dans la région, il y a beaucoup de forêts, et c'est vraiment toujours un plaisir d'aller courir en forêt. Même si on ne fait pas de compétition, aller courir en forêt le samedi, le dimanche matin, faire 5-10 km, ben c'est toujours un très grand plaisir. Donc c'est pour ça les gens s'y mettent, et puis après, c'est vrai, on a envie de faire de la compétition.
Oui, et puis il y en a pour tout le monde, hein, dans la course à pied. Je veux dire, il y a celui ou celle qui vient pour la course, et puis il y a celui ou celle qui vient vis-à-vis de soi-même par rapport à un temps.
Oui, alors ça, en plus, c'est un bon vecteur de santé. Je veux dire, si on veut rester effectivement en bonne santé, éviter tous les méfaits de la sédentarité, il est bon quand même de pratiquer un sport. Et là, c'est un sport qui est facile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'équipements. Il n'y a pas besoin d'aller dans des équipements sophistiqués. On va sur la route, on va en forêt, on va avec des amis, avec ses enfants. Et c'est vraiment formidable.
Et c'est aussi un phénomène de mode. Oui. C'est de plus en plus à la mode. Et en plus, comme on progresse très vite, c'est vrai que les résultats sont là dès le départ. Donc c'est vrai qu'on a envie toujours d'aller plus loin. Mais en plus, comme on entend toujours dans les médias qu'il faut sculpter entre guillemets notre corps et qu'il faut vraiment faire attention, manger sain et faire beaucoup de sport. C'est vrai que c'est à la mode et c'est vraiment un sport qui ne revient pas cher au final, puisqu'effectivement, comme vous dites, il y a les forêts et l'équipement, ce sont une bonne paire de baskets et un short et un t-shirt et c'est parti. Hein. Donc,
voilà, alors parmi les autres épreuves de course à pied qu'il y avait, dimanche dernier, le 1er mai, il faisait beau en plus, hein, il y a eu le traditionnel trail des lavoirs, organisé par notre ami Stéphane Schubert, hein, deux trails, un trail court de 31 km et un trail long de 53 km. C'est Raphaël Hoquet de Le Pape Info qui a remporté l'épreuve donc courte des 31 km. Il a mis 2h07min46s devant Bertrand Jean du VAC, 2h08min12s, troisième Bastien Catex, 2h10min51s, quatrième Xavier Dariota, 2h11min28s, et le cinquième c'est Adrien Tarenne de Montgeron, 2h12min5s, 47e et première féminine Marie-Hélène Bidard de Montrouge, 2h36min43s, et 493 concurrents et concurrentes classées dans ce trail, ce qui prouve que les trails marchent remarquablement bien. Dans l'épreuve longue, hein, de 53 km, c'est un habitué, un fidèle, Nicolas Duhail, qui s'est imposé du team Outdoor Poly, 4h06min8s, deuxième Raphaël Danchin, 4h35min57s, troisième Laurent Sarotis de Montrouge, 4h43min21s, quatrième Sébastien Germain de Villepreux, 4h45min22s, et cinquième Guillaume Villa, donc des Fennecs de Houche, 4h49min29s. C'est Lucie Allozy de la Société Générale qui termine première féminine, 24e, en 5h38min12s, 141 concurrents et concurrentes classés. Et le trail relais, eh bien, c'est les 6 pieds nickelés ou pas qui s'imposent en 4h31min42s. Ça aussi, les trails, c'est une grosse spécialité du coin.
Oui, tout à fait.
Il y en a un d'ailleurs sur Offargis.
Oui, il y a un trail sur Offargis, bien sûr, avec la forêt. C'est quand même le lieu idéal. Je vais revenir au comité départemental olympique et sportif des Yvelines, puisqu'on en a parlé. Hein. On a été responsable de toute la partie développement durable sur l'éco-trail de Paris. Et l'éco-trail de Paris, dans toutes les épreuves, ça a réuni 11 500 participants. Donc 2500 sur le trail principal de 80 km. C'est dire que vraiment...
C'est un phénomène vraiment de société dans notre région, la course à pied. Hein.
Oui, bah oui, tout à fait. Je disais que grâce à l'environnement en général, les petites routes, la forêt, c'est idéal pour les trails.
Et c'est toujours bon de rappeler donc les résultats et ces performances, parce que on voit qu'en plus, ce sont des véritables athlètes, hommes et femmes. Chapeau pour les temps qu'ils réalisent au cours de ces épreuves.
Tout à fait, on voit que c'est vraiment des temps extraordinaires, parce que c'est vrai qu'il y a loin du petite course qu'on fait en famille, le samedi ou le dimanche matin, aux résultats qu'on voit là et aux performances.
Voilà, et puis je voulais aussi avoir une pensée dans cette émission pour Thomas Vira, hein, qui, avec sa famille, est parti hier donc de la mairie de Molette. Il est champion de France de road and bike, et il est aussi coureur de duathlon, et il est parti parcourir 1800 km en 2 semaines entre donc notre département et le Portugal, puisqu'il y a une arrivée qui est prévue le 21 mai à Serra del Rei, là-bas au Portugal. Et le but dans ce parcours, eh bien, c'est de faire comme ceux des années 60 qui, à pied, ont voulu fuir la misère, la dictature avec Salazar et la guerre coloniale. Je crois qu'on l'aura d'ailleurs dans 15 jours au téléphone pour nous raconter son récit. C'est un véritable aussi parcours sportif. Hein. Donc là aussi, chapeau à lui.
Oui, tout à fait. Des distances pareilles, c'est vraiment quand même extraordinaire.
Oui, parce qu'il faut remettre ça tous les jours, il faut être en forme, on n'a pas le droit au moindre coup de pompe.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Géraldine, c'est bien ce genre de tentative aussi.
Ah bah oui, c'est une super initiative, hein, oui. Et comme vous en étiez à faire un petit clin d'œil, moi je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Hervé Joly qui était avec moi sur le podium, parce qu'il a traversé quelques petits soucis là et il était super en forme pendant la course. Heureusement qu'on l'avait pour les résultats, parce que c'est vrai que c'est lorsque les résultats arrivent, il faut faire un tri là-dedans et il a été très très fort et je voulais juste lui faire un gros bisou.
Ouais, parce que Hervé, c'est un fidèle en plus de notre micro, hein. Il nous aime bien, il vient régulièrement nous parler sport, en plus il est complètement omnisport. Alors, avant de parler de tennis, tiens, comme on avait parlé du comité départemental, on va rester dedans. Vous êtes responsable de la com depuis 2-3 ans, hein, Jean-Michel?
Oh, ça va faire un peu plus, ça va faire 4 ans.
Ouh, ça passe vite.
Oui, tout à fait. La personne qui s'occupait de la communication, pour raison personnelle, elle était obligée de quitter ce poste. Donc, à ce moment-là, je cherchais une occupation pour ma retraite. Et j'ai pris le poste et je pense avoir bien fait les choses et puis que maintenant on a une communication qui se tient.
Oui, que c'était Gabriel Tissier hein, qu'on avait reçu voilà. aussi, qu'on connaissait bien. Donc vous avez pris le relais de Gabriel. Alors le rôle c'est quoi? Le rôle d'un responsable de com, c'est de valoriser les associations sportives, les performances, les initiatives sportives à travers les médias, le département.
Oui, tout à fait. Donc, le rôle que nous avons, c'est de valoriser d'abord bon, les résultats sportifs et puis surtout le travail des bénévoles dans les différents clubs et les différents comités. Et pour cela, ben, nous avons deux revues biannuelles, Info Olympique et puis Dossivine Info. Donc, ça nous fait quatre revues sur ce sujet que l'on sort dans l'année. Et puis, on édite tous les mois une lettre électronique avec éventuellement des flashs spéciaux sur le sujet. Et puis, on a toujours la soirée olympique, hein, où on remet effectivement les éclats olympiques.
À laquelle on vient très souvent.
À laquelle, en général, toujours, même presque, RVE est associé, où on récompense effectivement les sportifs méritants, et puis tous les bénévoles, les dirigeants, les entraîneurs, voire bon, ceux qui ont fait des actions de fair-play particulières, reçoivent donc une récompense de la part du comité olympique.
Oui, mais toujours un parrain, hein, et parfois on a eu des parrains prestigieux. Je me rappelle de Thomas Lombard l'année dernière. Là, cette année, c'était encore quelqu'un d'assez important dans le monde du sport. Hein.
Oui, cette année, c'était Monsieur Radius, qui est un athlète paralympique et qui est sélectionné pour les Jeux de Rio, ouais. Qui a plusieurs titres de champion du monde hein, dans sa catégorie en demi-fond.
Oui. Alors, quelles vont être les priorités, Jean-Michel, du comité départemental olympique et sportif? On reçoit beaucoup de présidents et présidentes hein, des différentes donc fédérations sportives. On a beaucoup travaillé avec Jean-Loup Lepin. Alors, Jean-Loup était venu au fin juin nous parler, non pas de sa démission, mais de son retrait. Bon, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions. Il y a une nouvelle équipe donc qui est arrivée, avec à sa tête Jean-Claude Redon. Est-ce que ça va être un changement dans la continuité ou complètement un véritable cap à 180 degrés?
Alors ça a été une grosse évolution, hein, pour un changement de cap à 180 degrés, n'exagérons rien, mais il a fallu remettre à plat beaucoup de choses. En fait, donc Jean-Loup Leplat s'était retiré puisque les contraintes qui nous étaient imposées, aussi bien budgétaires que d'orientation par le ministère, ne lui convenaient pas et ne lui semblait pas possible de les réaliser.
Donc il était venu s'en expliquer dans une émission fin juin, hein, on s'en rappelle tous, hein.
Voilà, il était venu tout à fait fin juin s'en expliquer. Donc depuis, l'équipe du DOS a décidé de mettre les choses dans le bon sens, à savoir donc satisfaire aux directives du ministère et de la direction de la cohésion sociale. Hein, et pour ce faire, réussir à subvenir aux besoins du CDOS avec les réductions budgétaires, pour cela, bon, c'est réorienté dans deux sens. Donc déjà, on a quand même embauché deux jeunes, l'un qui s'occupe du sport santé, donc qui est spécialement dédié à l'assistance aux associations qui créent des sections sport santé. Et puis développer aussi du côté des hôpitaux, hein, un axe sport santé. Et puis on a embauché un autre jeune pour s'occuper particulièrement du développement, donc d'assister les clubs et les comités pour les événements sportifs. Et puis également les communes pour tout ce qui a trait au temps d'activités périscolaires. Donc là on aimerait, puisqu'aujourd'hui un peu la difficulté c'est que les jeunes sont de plus en plus avec de l'embonpoint, sont de plus en plus sédentaires avec toutes les tablettes, etc.
Oui.
Et puis avec les risques.
C'est prouvé hein, dernièrement, il y a eu des stats. Hein.
Voilà, tout à fait, c'est prouvé avec tous les risques derrière liés à la santé de la population. Donc nous avons un jeune qui est dédié à essayer d'impulser l'augmentation de la fréquence de l'activité sportive dans les écoles dès le plus jeune âge, justement pour éviter tous les risques liés à l'obésité.
Et ces embauches, ce sont des embauches en CDI à temps complet ou c'est des contrats particuliers?
Non, ce sont des embauches en CDI, hein, tout à fait.
Ah oui, donc c'est vraiment une véritable entreprise maintenant, au dos, hein.
Tout à fait. Alors, bon, on a pu réaliser ces embauches hein, grâce à l'aide de la direction départementale de la cohésion sociale, bien sûr, mais à terme, il va falloir effectivement qu'on puisse se dégager de l'aide budgétaire de la direction de la cohésion sociale, donc à nous de trouver effectivement derrière les financements qui nous permettront de conserver ces salariés.
Et c'était ce qui avait fait peur à Jean-Loup Leplat, et ça avait été, j'allais dire, allez, le principal motif de son retrait.
Tout à fait, c'était exactement ça qui lui avait fait peur, il ne se sentait pas capable d'assumer financièrement l'embauche de ses deux salariés.
Bon, il vient vous revoir de temps en temps, tout l'a complètement coupé.
Il est venu nous voir à la dernière assemblée générale, mais il a à peu près complètement coupé. Oui, il est bon. Oui.
Très bien. Alors, quelles vont être les actions principales? Parce que vous en avez plein. Bon, d'abord, ça fera plaisir à Géraldine. Il y a l'opération sport en filles. Hein. Le sport féminin est remarquablement bien considéré au sein du comité départemental. Il y a même des journées carrément sport en filles.
Oui, tout à fait. Alors, on a une commission féminine hein, qui va reprendre un petit peu du poil de la bête pour être beaucoup plus impliquée dans toutes les opérations sport en filles. D'ailleurs, je signale qu'au Tennis Club de Fargis, on a, avec la Ligue des Yvelines de tennis, le 10 avril, réalisé une opération sport en filles, effectivement, dans ce cadre-là. Et puis, on va effectivement aller dans les banlieues un petit peu de la politique de la ville, comme on dit aujourd'hui, un petit peu sensible, pour essayer de faire des expositions dans les mairies, dans les lieux où les femmes et les filles, que les femmes et les filles fréquentent, de façon à essayer de sensibiliser et de pousser, effectivement, les associations et les clubs à créer des sections, si elles n'existent pas, ou essayer d'amplifier un peu les sections féminines.
Eh ben, un jour, tiens, faites appel à Géraldine, c'est une bonne ambassadrice, hein, sans aucun problème.
Un peu féministe, non, c'est ça? Non, mais c'est une très belle initiative, très très belle initiative, c'est vraiment très bien, mettre les femmes en valeur, de toute façon, c'est un combat quotidien, et c'est vraiment bravo, bravo. Oui, je serai votre ambassadrice s'il faut.
Donc ça, c'est naturellement une des opérations, et puis il y en a d'autres. Est-ce que vous faites par exemple encore des dîners et débats, comme ça s'est fait dans le passé, sur un thème particulier?
On n'a pas eu l'occasion d'en faire, hein. Par contre, on a prévu un colloque le 17 mai sur la réutilisation du matériel sportif. Mmh. On va essayer de sensibiliser les clubs et les associations sportives à ce que le matériel sportif usagé ne soit pas jeté, mais soit réutilisé d'une façon ou d'une autre, ou réemployé, ou envoyé dans des pays du tiers-monde pour éviter d'être jeté, et puis avec un temps de dégradation qui est plus ou moins long.
Parce que je me souviens de certains colloques hein, qui étaient super sympas. Il y en avait eu sur l'handisport sur Rambouillet, à Clairefontaine, il y avait eu le sport de compétition après 40 ans. C'était donc très important. On avait naturellement parlé pour le dopage, aussi du dopage. Et puis, certains colloques aussi qui parlaient de comment gérer un club sportif sur le plan associatif, parce que ça aussi, c'est un problème. Et il y avait des mesures d'accompagnement de votre part.
Oui, alors ça, c'était plutôt les formations, oui. Hein, comment gérer un club sportif. Donc actuellement, on est en train de revoir un plan de formation, justement, sur le sujet, avec Profession Sport, hein, puisqu'on s'est aperçu qu'on était un petit peu en concurrence sur tout ce qui était formation, et que du coup, ben, les deux pâtissaient de ce phénomène. Donc on s'est rapprochés, et on est en train de monter ensemble, avec Profession Sport, tout un plan de formation qui, je pense, bon, sera définitif aux vacances, là, juin ou septembre.
Et puis, vous l'avez dit, donc, cette fameuse soirée olympique qui récompense tous ceux qui ont brillé dans le sport yvelinois, tant sur le terrain que dans les coulisses, comme bénévoles, comme dirigeants, comme éducateurs.
Oui, tout à fait. Donc, nous, notre objectif, hein, c'est de récompenser, bien sûr, déjà les athlètes de haut niveau, les sportifs de haut niveau du département, et puis surtout les bénévoles, parce qu'on insiste un peu, c'est de plus en plus, on a du mal à trouver dans les associations des bénévoles, et je crois que de plus en plus, ils s'impliquent, et on leur demande de faire beaucoup de choses, notamment au comité olympique. Donc, on les récompense, bien sûr, lors de ces éclats olympiques, qui ont eu lieu 12 février, je crois.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a aussi une chose sur laquelle vous êtes particulièrement sensible, c'est l'éco-responsabilité. Ça, c'est important.
Oui, tout à fait. Alors, on a une personne, effectivement, qui était déjà en poste au comité olympique, Lina de Barbera, qui, elle, est spécialisée dans le développement durable et écrit beaucoup de documents et monte des colloques sur, effectivement, l'éco-responsabilité et tout ce qui est les bonnes pratiques hein, pour, effectivement, favoriser le développement durable.
Elle était venue, d'ailleurs, en parler, je crois, pour la fête du sport, c'était l'année dernière, en 2014, il y a 2 ans. Hein, on rentrait tout juste du Brésil, et elle était venue, donc, nous parler de l'éco-responsabilité dans le domaine du sport.
Oui, oui, tout à fait. On avait organisé, fin juin, je crois, un colloque à Rambouillet sur le sujet.
Alors, et puis, il y a aussi votre grande journée de l'automne dans le sport, la fête du sport, pratiquement, c'est ça?
Oui, alors là, bon, on participe à pas mal d'activités sur la fête du sport hein, au mois de septembre. Et puis ensuite, au mois d'octobre, je crois que ce sera le 11 octobre cette année, je ne sais plus exactement le jour, on organise des foulées olympiques. Oui. dans le cadre d'une opération, d'une course organisée par l'SPTT des Yvelines, hein, équidène. Et puis l'association Ellipse, où il y a des courses aussi pour les handicapés l'après-midi.
Donc il n'y a pas d'autres manifestations sportives autour, parce que moi je me souviens être venu vous voir à Buc par exemple, et il y a eu beaucoup de il y avait je crois du parachutisme, il y avait même du hockey sur roulette, enfin tout ça, il y avait un tas d'activités sportives aux alentours.
Oui, alors dans le cadre des foules olympiques, on organise ce qu'on appelle un village olympique, oui. Où on présente différentes activités des comités affiliés au comité départemental olympique et sportif. Et où on fait, on initie hein, les gens qui viennent à la pratique de ces activités.
D'accord. On gagne les vestiaires, on fait un peu de pub et un peu de musique, et puis on vient ici donc au tennis club de Fargis pour parler de votre autre grande passion, Jean-Michel, avec le Gauss, à savoir le tennis. On y va.
L'Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnue au Grenelle de l'environnement, vous propose des devis gratuits pour la rénovation de vos fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage et même des prestations d'isolation de comble et maintenant d'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnue au Grenelle de l'environnement, showroom 27 rue de Chartres au Perret-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les Salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les Salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h, un buffet dînatoire à volonté. Boissons et soirées nightclub incluses à 45 euros. Le dimanche à partir de 11h, un brunch avec après-midi dansant et animation pour enfants à 39 euros, enfants 15 euros. Et un thé dansant de 15h à 18h avec son buffet gourmand à 15 euros. Les Salons Léopold, la vallée à Cernay-la-Ville. Réservation et informations au 01 34 85 20 02 et sur www.salonleopold.fr.
Jean-Michel, comment va le sport d'une façon générale dans les Yvelines? On sait que le tennis, justement, c'est le sport numéro un dans les Yvelines. D'une façon générale, c'est un département qui pratique beaucoup de sport. Est-ce qu'il y a la demande pour l'arrivée de sports assez insolites?
C'est un département qui est très sportif, hein. Et puis effectivement le tennis est le sport numéro un devant le football. On voit paraître des sports un petit peu insolites, ouais, qui combinent différentes choses, hein. J'ai vu qu'il y a un club qui s'était créé qui combinait le frisbee avec un peu de football américain. Il y a du canoë, water polo, enfin bon, dans une balle en canoë. Il y a beaucoup de sports nouveaux qui émergent. Alors savoir si ça durera, je sais pas, mais bon, s'il y a des gens qui s'intéressent, que ça amuse, je dis c'est très bien.
Et puis au niveau quand même des sites sportifs, on a Clairefontaine pour le foot, on a le Vélodrome de Saint-Quentin. Ça aussi, ce sont des outils quand même qui sont importants pour un comité départemental. Il y a tout un tas d'actions qui se drainent derrière cela.
Oui, je crois que c'est surtout bon, Clairefontaine. Alors, bah, c'est la formation effectivement des jeunes footballeurs et qui drainent un petit peu le football sur le département. Et puis le Vélodrome, bah, tous les cyclistes de haut niveau se sont rapatriés sur le Vélodrome pour pouvoir s'entraider. Hein, donc ça apporte aussi au cyclisme un grand élan. On voit qu'il y a beaucoup de résultats maintenant au niveau des sportifs, des cyclistes yvelinois, et ça c'est une bonne chose.
Oui, et puis les amateurs peuvent l'utiliser, c'est important. Hein. On y a vu aussi des beaux championnats du monde sur piste l'année dernière. Bon, maintenant, il faudrait peut-être faire vivre un peu plus ce vélodrome côté omnisport.
Ben oui, c'est vrai que bon, c'est un vélodrome qui a la porte ouverte, et ça c'est quand même formidable. Quand on va le dimanche, on voit effectivement des amateurs qui viennent et qui peuvent rouler sur la piste avec les professionnels qui s'entraînent autour. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que ce vélodrome, il a du mal à faire autre chose. Alors il y a effectivement des terrains de badminton aussi au centre, hein. Mm-hmm. On voit les gens qui s'entraînent au badminton le dimanche, mais ce serait bien qu'il y ait d'autres grandes manifestations sportives, que ce soit des sports de combat ou même peut-être, pourquoi pas, du tennis ou du badminton à haut niveau qui ait lieu. Il y a eu du judo aussi, hein, des championnats de France junior, je crois, de judo, mais ça manque un petit peu d'autres sports, d'autres animations sportives sur ce vélodrome.
Alors Jean-Michel, je suppose que vous êtes aussi avec le comité derrière Paris 2024. Vous ne pouvez pas faire autrement. Surtout que si on a les Jeux, les Yvelines vont être concernées. Hein. Versailles, même Rambouillet peuvent être sites olympiques pour certaines épreuves.
Oui, bien sûr, on est à fond là-dessus.
Et Saint-Quentin, naturellement, pour le vélo. Hein.
Et Saint-Quentin. Non, je crois que les sites ont été choisis et Rambouillet, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit rembouillé, quoi que ça peut être une base arrière pour
voilà, les équipes. Voilà, ça sera ça, une base arrière, je crois, au niveau de l'équitation.
Voilà, c'est ça, c'est une base arrière au niveau de l'équitation. Maintenant, il y aura les épreuves principales d'équitation à Versailles,
oui.
Hein, dans le parc du château de Versailles. Bien sûr, le golf national, le vélodrome national, et puis le BMX, toujours aussi à côté du vélodrome, et puis le VTT. Sur la colline d'Elancourt.
Donc naturellement, toutes les actions qui vont être, qui vont aller dans ce sens, jusqu'en septembre 2017, hein, puisque c'est là que le verdict sera connu. Donc vous allez les accompagner sous quelque forme que ce soit.
Oui, ben on va faciliter toutes les opérations qui sont dans le sens d'aider à la promotion de la candidature, on le favorisera notamment. Bon, il y a un questionnaire aujourd'hui auprès des jeunes, on va essayer de pousser à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui répondent, hein, puisque l'implication de la population est aussi un critère de sélection de la ville qui sera retenue. Donc nous, notre travail là, c'est d'essayer d'impliquer au maximum les comités et les clubs dans le positionnement de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
Oui. En tout cas, allez, cette fois-ci, ça va marcher. On va croiser les doigts. Hein, Jardine, on va croiser les doigts pour...
On croise les doigts, on croise les pieds, les orteils, tout ce qu'il faut, mais il nous faut les jeux en France. Ouais.
Mm-hmm. Allez, on va parler tennis, parce que c'est une époque importante. Je l'ai dit, vous êtes en plein tournoi. Ça va, la météo, pour l'instant, est plutôt favorable pour ce tournoi, donc ça se passe bien.
Oui, la météo est favorable, mais on a eu quand même, hein, on a un gros souci, c'est la participation. Hein, cette année, on a une participation très très réduite par rapport à ce qu'on avait les autres années, hein, puisqu'on faisait du monde à 140, nos installations nous permettaient d'avoir 140 participants, donc on faisait toujours du monde, et cette année, on est péniblement à 90. Et je prends tous ceux qui... notamment côté femmes, hein, où là, je n'avais que 10 femmes inscrites. J'ai hésité même à faire un tableau. Bon, je ne peux pas, compte tenu du fait qu'on pousse le sport féminin. Je ne pouvais pas ne pas faire un tableau féminin. Mais enfin, ça a été très, très dur. Alors que d'habitude, on a toujours au minimum 30 femmes. On était arrivé à 10. Alors, l'explication, je pense, c'est ce seul week-end de mai sur l'Ascension, où là, bah, effectivement, bon, les gens ont voulu partir. Hein, il n'y a pas de week-end du 1er. Les gens ont voulu partir pour l'Ascension et puis ils se sont dit, bah, je ne vais pas masquer un tournoi si je ne peux pas participer. Je pense que c'est ça.
Oui, c'est comme nous, on travaille 1er mai, 8 mai, 15 mai, on est là pour l'émission, il n'y a pas de problème.
Pas de relâche, jamais. Ouais, non, jamais.
Jamais dans le domaine du sport. Mais pourtant, vous vous concertez entre les clubs quand vous organisez le tournoi. On aura la semaine prochaine Hervé Guérin qui sera là pour nous parler aussi du Perret. Vis-à-vis des autres clubs, vous vous concertez pour organiser votre tournoi pour pas être en concurrence, parce que on sait que mai, juin, juillet, c'est une époque importante pour les tournois.
Oui, on se concerte pour ne pas être en concurrence. Et puis nous, en général, on est le premier tournoi d'été. La saison d'été commence le 1er mai. Là, on commençait nos tournois le 30 avril. Donc on est le premier tournoi de la saison d'été. Donc en général, les joueurs aiment bien pour se tester à venir chez nous pour le premier tournoi de la saison d'été. Et là, ben, je ne sais pas pourquoi, véritablement, à part cette affaire de pont, pourquoi on a eu cette réduction dans les effectifs.
Et votre finale, c'est quand ?
L'autre finale, c'est le 22 mai.
D'accord, le 22 mai. Après, il y aura, je crois, Saint-Nez-la-Ville qui va prendre le relais. C'est à peu près leur époque. La Clairière a maintenu au mois de septembre, hein, comme d'hab.
Voilà, tout à fait. Saint-Nez-la-Ville prend le relais derrière nous. Et puis, la Clairière, c'est en septembre. Et je crois qu'il y a aussi Lévis qui doit faire fin août. Donc, en général, on se concerte pour avoir un tournoi en permanence, je dirais, sur toute la période du 1er mai à fin septembre.
Alors Jean-Michel, le tennis, ça reste pratiquement le sport le plus ancien sur Fargis. Hein. Je crois me rappeler qu'on a toujours parlé de tennis sur Fargis.
Oh, il y avait des gens qui faisaient du vélo. Il y avait déjà une petite équipe de cyclistes, effectivement, parce que le cyclisme est aussi un sport.
C'est vrai qu'on a eu Félix Lévitant, maire de Fargis, il y a très longtemps. Hein.
Oui, puis c'est aussi un sport agréable à pratiquer, comme je disais, sur les petites routes, en forêt. C'est toujours très sympathique de faire du vélo. Hein. Donc c'est un sport qui a toujours été très pratiqué aussi dans la région. Par contre, nous, le tennis, bon, on a fêté nos 30 ans en octobre dernier. Donc c'est effectivement, on est déjà un petit peu ancien. Et puis, bon, on arrive à maintenir, voire à refaire à augmenter les effectifs. Donc on est assez satisfait.
Alors justement, vous êtes combien à l'heure actuelle au Tennis Club de Fargis ?
Alors on est cette année 125 adhérents. On était tombé un peu en dessous et on a eu la chance au mois de mai que la municipalité puisse nous faire construire un court de mini tennis et un mur d'entraînement donc derrière le clubhouse.
Oui, qu'on voit qu'ils sont superbes.
Oui, ça complète bien les installations et ça fait un ensemble effectivement très joli. Donc ça a amené des jeunes et puis les parents viennent avec pour jouer et donc ça a amené quelques adhérents supplémentaires.
Alors dans votre club, quelle est la tranche d'âge représentée ? Vous avez parlé de jeunes, mais je crois me souvenir aussi à travers les trophées de tennis Herveux qu'on organise, hein, dont on va reparler, qu'il y a aussi beaucoup d'anciens, il y a des gens qui ont 70 ans, hein, même plus peut-être.
Oui, c'est la catégorie qui augmente presque la plus. C'est les plus de 65 ans. Parce qu'effectivement, les anciens continuent à jouer. Hein, c'est un sport qu'on peut continuer à jouer très longtemps. Donc les anciens continuent à jouer. Et puis on organise un tournoi permanent hein, avec tous les plus de 60 ans, tous les retraités, hommes-femmes confondus. Tous les matins, à 9h moins le quart, il y a un match. Donc il y a des gens qui organisent un planning. Ils font tourner pour que les gens se rencontrent tous les uns les autres. Et pratiquement tous les matins, il y a un match de plus de 60 ans, en double hein, bien sûr, puisque bon, à partir de cet âge, c'est quand même plus facile de faire du double tous les matins, donc sur le court couvert, il y a un match de plus de 60 ans qui se joue.
Non mais c'est bien, et alors beaucoup de femmes et de jeunes filles aussi.
Ben non, nous aussi, le problème reste le même. Il y a une désaffection. On a vraiment du mal à maintenir l'effectif féminin. Ouais. Alors qu'on essaye quand des jeunes s'inscrivent au cours de tennis, ben, d'attirer un petit peu la maman par des tarifs particuliers, etc., avoir des cours tarifs préférentiels, voire on a même fait des cours gratuits certaines années hein, pour les mamans d'élèves. Mais l'effectif féminin se réduit tous les ans. On n'arrive pas à accrocher les femmes au tennis.
C'est la concurrence des clubs avoisinants, parce qu'il y a Saint-Nez-la-Ville, il y a deux clubs sur Rambouillet, il y a Essert-le-Roi, il y en a pour tout le monde. Est-ce que le Perret, est-ce que c'est ça qui explique cette désaffection pour les filles, pour le tennis sur Fargis ?
Non, pas du tout. Hein. Je crois Ah oui, tout à fait, c'est général et c'est vrai pour le tennis en Yvelines et je crois pour le tennis en France. C'est pour ça que la fédération et la ligue organisent des opérations spécifiques tennis féminin pour essayer de montrer aux femmes que le tennis c'est aussi un sport pour les femmes et que ça pose pas plus de problèmes pour les femmes que les autres sports, mais ça n'empêche que les effectifs féminins diminuent.
C'est même un sport très féminin, il faut le dire quand même, hein, Jean-Michel.
Oui, c'est un sport très féminin et puis c'est un sport bon, qui est facile puisqu'il suffit d'avoir une seule personne pour jouer avec soi. Et puis bon, les terrains aujourd'hui sont pas très très pris, donc on s'inscrit très facilement. Ça dure une heure, donc c'est pas très très long. Donc pour moi, c'est un sport qui peut bien se placer dans la vie féminine sans problème.
Ce sont tous des pratiquants et pratiquantes d'Offingis ou alors ils viennent des villages avoisinants malgré la concurrence?
Alors ce sont majoritairement des pratiquants qui viennent d'Offingis. Par contre, les pratiquants d'Offingis, des fois, attirent leurs amis. Mmh. Et puis, on a beaucoup de jeunes qui ont quitté Offingis, mais qui restent inscrits à Offingis pour jouer avec leurs amis qui sont sur Offingis et jouent en équipe avec Offingis.
Ouais, parce que c'est l'avantage un peu du tennis. Il y a le tennis loisir, le tennis compétition. Quand on est présent comme vous, on arrive à harmoniser tout ça? Parce que c'est aussi la difficulté, quoi.
Hein. Oui, là, vous mettez le point sur la grosse difficulté.
Ah oui, je suis là pour ça.
Sur la grosse difficulté d'un président, c'est effectivement de trouver le bon équilibre entre compétition et tennis loisir. Parce que la compétition, ça prend les cours, et le tennis loisir, quand il veut jouer, si les cours sont pris par la compétition, ils reviennent plus. Alors effectivement, on essaye d'avoir pas trop d'équipes, que les équipes ne gênent pas trop le tennis loisir, et que les gens du tennis loisir trouvent quand même leur compte.
Oui, alors comment ça se passe? Combien vous avez de joueurs et joueuses tournés vers la compétition et combien sur le loisir? On sait que c'est souvent un sport de reconversion de tennis. Hein. On vient du rugby, on vient du foot, on vient de d'autres sports.
Oui, c'est sûr que les sports courts en général, on peut y jouer jusqu'à 30-35 ans, mais après, ça devient très difficile. Bon, il y a les blessures et puis il y a la forme physique, alors que le tennis, on peut y jouer dans toutes les configurations d'âge et de conditions physiques. Donc, c'est un bon sport de reconversion. Le rapport entre la compétition et le loisir, moi j'ai été étonné, il y a plus de 50% des adhérents chez nous qui font de la compétition. C'est assez surprenant, mais c'est le cas.
Et les résultats sont bons alors? Ou alors, ils sont à leur niveau? Allez, dites-nous tout, Jean-Michel, il n'y a pas de tabou sur l'antenne.
Non, mais on ne cherche pas à avoir de bons résultats. Mais on cherche à ce que les gens fassent de la compétition en se faisant plaisir. Voilà, exactement. Donc on ne cherche pas à avoir de bons résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, ça ne nous gêne pas. Non, la plus grosse difficulté, c'est de trouver les compétiteurs au moment où il y a la compétition. Après le résultat, on s'en moque complètement. Alors c'est vrai que du coup, on n'a pas de brillants résultats. Mais personnellement, en tant que président, je me moque du moment que les gens ont trouvé du plaisir à faire leur match.
Oui, puis s'il y avait quelqu'un qui serait doué au niveau des résultats pour aller plus loin, vous n'auriez pas les moyens de le garder de toute manière.
Tout à fait. Alors en général, c'est ce qui se passe. Quand un jeune émerge et dépasse le niveau du club, il va dans les clubs où il va trouver des adversaires de son niveau, des partenaires de son niveau, ce qui est normal. Et entre présidents, on se fait pas la guerre pour ça. Au contraire, on trouve ça normal et on favorise même cela.
Mais les chiffres de la compétition dont vous parliez, la 50% du loisir font de la compétition, c'est partout pareil, hein, c'est dans toutes les disciplines pareil. Maintenant, c'est un but, on se donne un but en faisant de la compétition, même passé un certain âge, on continue, parce que c'est vrai que on a envie de pratiquer son sport, mais on a envie de se mesurer à quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on se surpasse quand on se mesure à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que c'est pareil chez nous en volley. Hein, ouais. Même les loisirs qui viennent normalement se faire plaisir, on a organisé des compétitions de loisirs. Donc ça fait qu'on fait venir les autres clubs vraiment pour la compétition du loisir en dehors de la compétition nationale FFVB, FFGT.
Oui, alors ça n'existe pas encore en tennis, mais je crois que c'est un peu l'avenir effectivement du tennis pour que les gens restent à la compétition, pour que les femmes fassent de la compétition, trouver des formats plus réduits et qui soient plus attirants et qui soient plus conviviaux effectivement pour faire venir un petit peu plus les gens à la compétition, parce que sans compétition c'est pas s'étalonner, on sait pas se mesurer, et c'est vrai que on en a envie, donc tout le monde a envie de faire aussi un peu de compétition.
Vous avez une école de tennis aux jeunes?
Ah bien sûr, oui, on a une école de tennis et ça j'y tiens beaucoup et je la chouchoute.
C'est pour ça que je vous dis que vous en parliez.
Oui, donc on est une école de tennis, on a 55 ou 60 enfants, hein, sur les 120, on a à peu près 50% de l'effectif est à l'école de tennis.
C'est jusqu'à quel âge là, les cours de tennis?
Alors, l'école de tennis, elle va jusqu'à 16 ans, hein, puisque au niveau fédération, l'école de tennis jusqu'à 16 ans. Par contre, on continue, nous, à conserver les jeunes jusqu'à 20 ans en école de tennis. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les cours adultes. Mm-hmm. Et là, il y a encore des gens qui ont dépassé la cinquantaine qui prennent des cours. Hein.
Et les jeunes restent en général vers le tennis ou ils bifurquent après?
Alors les jeunes restent en général toujours au tennis, hein. Et s'ils viennent plus au tennis, ils font plus non plus d'autres sports, que ce soit des sports co, mais il y en a beaucoup qui font en même temps des sports co, hein, du hand ou du foot, ou du volley, même en même temps que le tennis, bien sûr, et c'est recommandé.
Alors Jean-Michel, si on veut venir vous rejoindre, faudra attendre l'année prochaine maintenant, hein. Faut attendre septembre, faut attendre le forum des associations.
Non, pas du tout, ah bon, pas du tout. Non, pour justement éviter cela, et puis comme les gens en général ont du temps en juillet-août, on pratique des tarifs d'inscription absolument très très bas, justement pour que les gens pratiquent et s'y mettent au tennis avant la saison. Donc sur juillet-août, on fait des tarifs été à des prix très très bas.
Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation chez vous?
Alors, le prix de la licence pour les adultes est de 25 euros cette année et pour les enfants de 18 euros. Quant à le tarif de l'inscription, c'est 120 euros.
Ouais, donc ça reste honnête. Et il y a un petit surplus si on fait de la compétition?
Ah non, du tout. Non. Le club prend à sa charge tout ce que coûte la compétition, aussi bien l'inscription aux épreuves que les balles. Tout ça, c'est pas en charge par le club.
Bon, en plus, c'est pas un sport cher. Il faut une bonne paire de tennis, comme pour la course à pied. Hein. On en parlait. Et surtout, un jeu de raquettes important, parce que combien? 2-3 raquettes dans une saison?
Non, pas du tout. Non. Enfin, moi, la mienne, je l'ai depuis plus de 10 ans, je pense. Non, par contre, le cordage dans une raquette, ce qui peut s'user, c'est le cordage. Effectivement, les jeunes qui liftent beaucoup, alors ils peuvent avoir à changer leur cordage au bout de 6 mois.
Hein, ouais.
Au bout de 6 mois, au bout d'un an, un cordage, c'est entre 15 et 20 euros, c'est vrai.
Ça vous fait des créneaux finalement 7 jours sur 7, j'allais dire presque 24 heures sur 24, non?
Ou 7 jours sur 7, non pas 24 heures sur 24, parce qu'on n'a pas le droit de jouer après 22 heures, ça fait trop de bruit pour les riverains. Hein. Mais bon, c'est presque 7 jours sur 7, puis comme on a beaucoup d'heures dans la salle Omnisport que l'on a au Fargis, ça permet de jouer par tous les temps et à peu près effectivement tout le temps.
Oui, et puis on voit, hein, on découvre hein, vos cours en plein air à chaque fois. Est-ce qu'il est prévu des améliorations? Est-ce qu'un nouveau cours couvert, par exemple, c'est faisable un jour?
Ah, ce serait le rêve, mais je crois que malheureusement, compte tenu des coûts, et puis c'est vrai qu'on n'a pas non plus un effectif qui le nécessiterait, mais il faut reconnaître que ces derniers temps, où on a eu de très très mauvaises périodes au point de vue de la température et de la pluviométrie, on aurait bien aimé avoir un deuxième cours couvert.
Donc vous organisez votre tournoi Open actuellement, j'allais dire c'est le rendez-vous le plus important sur Fargis. Il y a naturellement d'autres manifestations dans la saison.
Oui, alors c'est le rendez-vous le plus important, bien sûr, pour Fargis, parce qu'on fait venir des gens de l'extérieur et puis des gens jusqu'au niveau 15. Classement 15, alors qu'au Fargis, bon, on s'arrête à 15-4, 15-3 maximum. Donc là, c'est quand même du haut niveau et c'est vraiment du très très beau jeu. Hein, par contre, bon, on a toujours traditionnellement le tournoi RVE au mois d'octobre.
Donc vous êtes maintenant le fer de lance. Hein. Nous, on vous accompagne au niveau de la com. Alors ça, c'est une belle réussite hein, qu'on avait faite avec Jean-Michel. C'est vrai que les clubs, ça vous a permis de vous connaître entre vous. Vous êtes constitué une sorte de club, donc RVE. Et ce qui est fou, quand même, c'est que vous y êtes très accroché. C'est pas une compétition officielle, mais ça reste une compétition, c'est ça?
Oui, c'est une compétition qui est sympathique parce que c'est un format réduit. Ouais. Et puis, bon, ça permet de connaître les gens des clubs des environs. Bon, souvent, on voit les mêmes, d'ailleurs, d'une année sur l'autre. Donc, ça permet de les revoir et c'est toujours sympathique. Et puis, bon, bah, ça permet de faire jouer aussi, normalement. On y arrive, hein, des gens qui n'ont jamais fait de compétition. Ouais, donc, ouais. L'idée, c'était de faire aborder la compétition à des gens qui n'en font jamais et qui appréhendent d'en faire.
Oui, oui. Et donc, il y a un peu cet esprit clocher. Et après, ils sont très, très investis, très concernés et franchissent souvent le cap.
Voilà, c'est ça. L'intérêt, c'est effectivement de permettre aux gens de franchir le cap. Et puis nous-mêmes, ça permet de voir des gens qu'on ne pensait pas à ce niveau de jeu. Et puis de dire, bah tiens, on va les intégrer dans les équipes parce que effectivement, ils ont pris goût à la compétition et puis ils ont le niveau de jeu nécessaire.
Ouais, c'est vrai, c'est une belle réussite. Et puis, c'est toujours un moment sympa, convivial qu'on retrouve. Bon, cette année, il va falloir remplacer les vissons quand même, hein.
Oui, alors on va essayer de remplacer Lévis Sanon, qui nous a fait défaut ces derniers temps. Alors bon, il faudrait qu'on réfléchisse au club qui pourrait le remplacer.
Et puis, est-ce que vous participez, par exemple, au final Sudivine de Masters? C'est aussi une épreuve qui nous intéresse. Hein. On est radio partenaire sur cette épreuve, donc créée par Jean-Louis Mazard. Est-ce que vous comptez aussi être parmi les clubs importants de ces finales Sudivine où vous manquez de jeunes?
Ben, moi, ça aurait été mon rêve de participer. J'en avais parlé souvent avec Hervé Guérin, du Perret qui en fait partie. Malheureusement, bon, un, on n'a pas assez de jeunes, et deux, on n'a pas les installations. Il faut pouvoir avoir beaucoup de disponibilité sur des terrains couverts, et ça, nous n'avons pas une donc, nous ne pouvons pas faire ce genre d'animation. Par contre, on a prévu, alors j'espère qu'on le fera cette année. L'année dernière, on l'avait prévu, on n'a pas pu, il n'y a pas assez de jeunes d'inscrits. On a deux tournois Open Jeunes, 9 ans. Un le 18 juin prochain et un autre le 19 septembre. Donc là, j'espère que cette année, on pourra les organiser.
Ouais, ce sera en tout cas sympa. Hein. C'est important, ces jeunes. Et puis, le tennis, c'est un sport encore qui plaît. Il y a eu un petit coup de moins bien il y a quelques années, puis c'est bien reparti maintenant, hein, au niveau de l'intérêt.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a un coup de moins bien et ça, je pense que ça repart. Et puis bon, les jeunes, pour nous, et les femmes, comme on le disait, ce sont deux objectifs que l'on a et sur lesquels on met beaucoup d'énergie.
Très bien, on va marquer la deuxième pause musicale, la deuxième page de pub, hein. Ça passe très vite ici au tennis club de Farchus. Et puis on va conclure, on va parler de Roland Garros naturellement. Allez, tout de suite donc la pub, la musique, et après on va sur la centrale de Roland Garros.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 50 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
RVE.
on va finir avec Roland-Garros, hein. On va aller par procuration sur le central. Jean-Michel, comment vous voyez ce Roland-Garros 2015? C'est le grand retour du chouchou de Géraldine Nadal?
Ouais. Oui, ben moi j'ai été surpris parce que Nadal effectivement était vraiment très au fond, il gagnait plus, il avait été blessé, et puis là sur le dernier tournoi il revient très 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 fort, il semble très en forme, et moi je suis très étonné, je pense qu'à Roland-Garros il peut faire quelque chose.
Oui. Il a gagné Monte-Carlo, en général c'est un signe. Est-ce que les Français, eux, peuvent jouer les troubles faits? On attend toujours un vainqueur depuis Yannick Noah en 83.
Oui, on attend toujours un vainqueur depuis Yannick Noah. Bon, moi, je crois beaucoup en Gaël Monfils. Hein, s'il n'est pas blessé, s'il se fait pas mal, c'est un peu tout ou rien, Gaël Monfils. Hein, si ça passe, ouais. il peut aller au bout. Il peut aller au bout.
Et chez les femmes, c'est plus ouvert. Hein, c'est plus difficile, peut-être, Williams.
Bah, chez les femmes, il y a Williams qui effectivement est largement au-dessus du lot. Maintenant, est-ce qu'elle sera en forme? Le problème aussi de Williams maintenant, elle a quand même, je sais pas, 34 ou 35 ans, et c'est vrai qu'elle a du mal à être en forme au bon moment, et on l'a vu à l'US Open, elle a craqué. Là, j'espère qu'elle sera en forme au bon moment parce qu'elle a quand même un très beau tennis.
Bon, ça va se passer comment, Géraldine Roland-Garros, cette année?
Ah bah c'est Nadal qui va gagner, c'est évident. C'est évident, de toute façon, vu le dernier match, effectivement, vous en avez parlé, qu'il a fait, et c'était impeccable. On a vu qu'il était revenu en grande forme. Donc je croise les doigts pour lui, c'est pas bien. Hein, c'est pas... Non, je devrais être pour mon fils, normalement, hein, mais voilà, Nadal restera Nadal, vraiment.
Et pour les femmes?
Et pour les femmes, alors bizarrement, j'ai moins suivi les femmes. Alors moi qui suis régulièrement les femmes dans tous les sports, au tennis, j'ai beaucoup moins suivi. Donc là, je sais pas. Alors là, au niveau des femmes, j'en sais rien.
Très bien, merci en tout cas. Merci Géraldine, merci Jean-Michel.
Merci.
Bon stage hein, pour le volley.
Ah oui, merci, oui, on part bientôt là, faire un stage pendant 4 jours. Donc ça va faire du bien pour tout.
Voilà, et puis la semaine prochaine, on retrouvera nos studios en ce dimanche de Pentecôte en compagnie d'Hervé Guérin. On parlera encore tennis. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Merci pour votre immense fidélité. Et puis bonne fin de week-end. Et puis on vous laisse maintenant avec la suite des programmes sur l'antenne d'Hervé. Salut, à très bientôt.